Écoutons la parole de Dieu dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspie, et tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. La parole de Dieu. Pour nous, c'est quelque chose de jamais vécu auparavant, d'avoir une crise sanitaire de cette ampleur, mais c'est quelque chose que nos ancêtres ont rencontré assez régulièrement. Vous avez certainement entendu parler de la peste noire qui a démarré en Chine en 1337. Elle a laissé derrière elle 13 millions de morts en Chine et puis elle progresse vers l'Europe lentement par la route de la soie, qui est empruntée par les commerçants et par les armées. 10 ans plus tard, elle arrive en Crimée, dans une ville de Kaffa. Et cette ville est entourée par un siège. Et c'est les Mongols qui sont autour de la ville. Et eux, ils sont pris par la peste noire. Et donc, ils ont l'idée de lancer des cadavres pestiférés au-dessus des murailles pour tomber dans la ville. Et donc, bien sûr, après, la ville succombe à cette peste et les gens commencent à fuir. Et partout où ils fuient, ils apportent cette peste, surtout en Europe, en Italie, puis à Marseille. Et c'est une peste qui va s'abattre un peu et puis qui va revenir 5 ans, 10 ans plus tard. Et ça a un impact très, très fort même sur le nombre d'habitants en Europe. La peste tue entre un quart et un tiers de la population européenne dès le premier choc. Donc, si on prend ce pourcentage aujourd'hui, ça serait entre 150 et 200 millions de morts dans 3 ans. C'est quelque chose d'incroyable qu'ils ont vécu ici où nous habitons maintenant. La mort était omniprésente, elle était obsédante, elle était massive, elle était anonyme. On dit qu'entre 1348 et 1500, Paris connaît une vingtaine d'attaques de la peste. En 1720, la peste de Marseille fait 50 000 morts sur une population de 90 000 personnes. Donc, c'est un choc dont nous n'avons même pas aujourd'hui l'équivalent de vivre cela. Et c'est un choc qui était, surtout pour eux, très mystérieux. Parce qu'on savait rien d'elle, on pouvait pas expliquer comment elle venait, comment se guérir, comment se protéger. C'était comme des flèches qui attaquaient là où elle voulait sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Mais vous savez, bien avant Europe, le monde a connu ces pestes. Et la Bible, en fait, en parle assez souvent de la peste. Et c'est dans ce contexte que nous avons ce psaume 91, où il dit au premier verset, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alors le sens du psaume est contenu dans la pensée que celui qui se confie en toute confiance à la protection du Tout-Puissant va bénéficier de cette protection. Vous voyez, donc c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de cette protection? Il faut se confier à cette protection. C'est ça le message du psaume. Celui qui se confie à la protection de Dieu reçoit la protection de Dieu. Il n'y aura pas de confiance vaine. Dieu protège celui qui se confie en lui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il fait sa demeure sur l'abri de Dieu. Eh bien, il repose sous l'ombre du Tout-Puissant parce que Dieu lui-même est présent et l'ombre de Dieu, si vous voulez, tombe sur lui. Nous avons la peste aussi au temps de la Réforme. Au moment où Luther va commencer à donner ses leçons sur le livre de Galates, la peste livre en Allemagne un nouvel assaut. Et Luther écrit à ce sujet à un ami le 26 octobre 1516. Et je cite cette lettre. Il dit « Je pense commencer demain avec l'épître aux Galates, mais je crains que la peste qui sévit actuellement n'interrompe mes leçons. Que dirais-je ? La peste est là, cruelle et soudaine, et atteint surtout les plus jeunes. Tu me conseilles de m'enfuir avec toi, mais où fuirais-je ? Si la peste fait des progrès, je vais disperser les frères à travers le pays. Mais moi, l'obéissance me retient ici. Il n'est pas permis de fuir à moins que l'obéissance ne me l'exige. Ce n'est pas que je crains la mort. Pardon. Il dit, ce n'est pas que je ne crains pas la mort, car je ne suis pas l'apôtre Paul, mais seulement son commentateur. Mais j'espère que le Seigneur me délivrera de ma crainte. » Donc, il admet sa crainte même de la mort et prie que le Seigneur lui délivre de cette crainte. En 1527, il va écrire un traité sur ce sujet. Est-ce qu'on peut fuir devant la mort? Et dans ce petit livre, il affirme que fuir devant la mort est un désir naturel que Dieu nous donne de se préserver et que n'est pas en soi une mauvaise chose du moment où cette tendance n'est pas dirigée contre Dieu ou contre son prochain. En fait, il dit ce que la Bible dit, que c'est notre amour pour Dieu et notre amour pour mon prochain qui doit gérer même mes choix. Donc peut-être j'ai l'occasion de fuir, mais si j'ai une responsabilité ou si Dieu met devant moi des prochains que je dois aimer, que je dois servir, eh bien il faut servir l'autre par amour plutôt que simplement se protéger soi-même. Quelqu'un a fait la remarque qu'à l'époque de la Réforme et avant, on prêchait le salut sur un fond de mort présente. C'est-à-dire la mort était toujours là. Mais aujourd'hui, on prêche le salut dans un contexte de mort cachée, d'allongement de la durée de vie, d'abondance au moins dans les pays occidentaux et dans les pays émergents. Le problème souvent, au lieu de prêcher la mort dans le contexte de prêcher la parole, parlons dans un contexte de la mort présente, la mort est plutôt cachée. Les gens ne pensent pas à la mort. On peut aller des semaines, des mois sans vraiment penser à la mort. Et avec cette crise sanitaire, la mort est peut-être moins cachée. Et on peut espérer que le Seigneur utilise cette crise pour nous faire penser plus à la mort qui est en soi une très bonne chose. La peste, la peur de la peste, donc à travers toute la Bible, le psaume 78 parle du fait que l'Éternel a envoyé la peste en Égypte avant de délivrer le peuple d'Israël. Et ce matin même, le Seigneur a amené à ma pensée le choix de David pour la peste. David avait péché, et Dieu vient envers lui à travers Gad. Et je lis là, c'est en Chronique, il dit « Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose trois fléaux, choisis un. et je te frapperai. Et Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, excepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répond tout de suite à Gad, il dit, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. 1 Chronique 21, verset 13. Il choisit la peste parce qu'il veut tomber entre les mains de Dieu. Et nous sommes vraiment entre les mains de Dieu. La question à se poser, est-ce que nous trouvons ça une bonne chose ou une mauvaise chose? Pour David, même dans les mains de Dieu qui vient avec un jugement dans sa colère et le choix à faire, parce que même dans sa colère, ses compassions sont immenses, David nous dit. Nous sommes donc dans les mains de Dieu. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce psaume? Vous avez ça devant vous sur le papier. Et c'est marqué là que les versets 1 et 2 nous donnent un témoignage personnel. Il parle de mon refuge. Hein, surtout au verset 2, après l'introduction, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est son témoignage personnel et c'est le témoignage que nous devons aussi porter aux autres autour de nous. Et je vous invite, si vous avez cette page, tout en bas, on va sauter un peu, tout en bas, vous avez 4 noms pour le protecteur dans ces 2 versets, les versets 1 et 2. 4 noms ici. Le premier, c'est le Très-Haut. Le Très-Haut. Hein, c'est un nom ou est-ce que c'est un titre? On peut dire un titre pour Dieu. Mais il est appelé, il va parler de la peste et de la maladie, tous ces ravages. Mais au-dessus de tout cela, il y a le Très-Haut. Ces autres choses peuvent nous paraître immenses, mais au-dessus de tout est Dieu qui est Très-Haut. Je vous donne la phrase ici, c'est un nom qui tranche chaque menace à sa taille réelle. Parce que devant Dieu, toutes les autres choses deviennent en fait petites. Il y a 4 noms pour le protecteur. Le Très-Haut, et puis après, qu'est-ce que vous voyez? Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. C'est le mot en hébreu Shaddai. En Exode 6, 3. C'est le nom dont les patriarches dépendaient. Et puis, nous avons aussi le nom traduit en français souvent comme éternel. C'est le nom Yahvé. Yahvé. C'est le nom d'alliance de celui qui ne change jamais. Il avait dit, c'est mon nom, je suis. Celui qui est, celui qui ne peut pas être changé ou bouleversé par quoi que ce soit dans ce monde. Et puis, quatrièmement, vous avez ce terme plus général de Dieu, mais personnalisé parce qu'il ajoute le pronom mon Dieu. Il ne prend pas le nom de Dieu en vain, il prend Dieu plutôt comme le sien. 4 noms donc pour Dieu, et je vous encourage plus tard à méditer. Et puis, deuxième partie de ce psaume, vous avez des encouragements personnels. C'est à partir de verset 3. Mais regardez le contraste entre verset 2 où il dit « Je dis à l'Éternel quoi ? Mon refuge. » Et puis regardez au milieu du verset 4. « Tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Donc on voit qu'il change de parler, au lieu de parler de Dieu comme « mon refuge à moi », maintenant il va parler à l'autre. Il va encourager quelqu'un d'autre. Que Dieu peut être ton refuge. Et vous avez ici 3 sous-points, A, B et C. Et on voit dans les versets 3 à 6 qu'il donne une protection compréhensive. dans beaucoup de, face à beaucoup de dangers différents. Regardez le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Vous voyez tous ces contrastes, vous avez une cuirasse et puis les ailes. C'est des images très différentes. Vous avez le jour et la nuit. Vous avez les ténèbres et le midi. Vous avez les terreurs, donc qui sont des choses internes, et puis la flèche qui est quelque chose externe. Vous avez les maladies, comme la peste et le contagion. Et puis, vous avez les ennemis, de nos jours, on dirait les terroristes externes, la flèche qui est envoyée contre nous. Et donc, ici, là, deuxièmement, juste après le plan du psaume, vous avez les dangers dont on a besoin de protection. Peut-être on peut noter ces dangers ensemble. Dans le verset 3, vous avez quoi en regardant votre Bible? Vous avez le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur. Hein, c'est quelqu'un qui attrapait, mettait les choses dans les arbres pour attraper les oiseaux. C'est une métaphore, bien sûr, parce que le filet en lui-même ne va pas attraper un homme. Mais c'est une métaphore pour l'ensemble d'intrigues secrètes, des complots qui pourraient être apportés contre nous sans qu'on le sache, parce qu'un filet, toujours, ça attrape l'oiseau, et quand il réalise, c'est déjà trop tard. Il parle de ces dangers qu'on ne voit même pas. Et puis dans le verset 5, il parle des terreurs de la nuit. C'est le supplice mental ici. Et puis la flèche, ça c'est le tourment physique. Donc il y a le deux, il y a le mental interne et le physique, la maladie qui peut-être ravage mon corps. Et puis au verset 6, il y a ce qu'on appelle, quand on étudie la littérature, une personnification poétique de la maladie. Vous voyez, il dit la peste qui fait quoi? La peste qui marche. Elle marche et on ne peut pas l'arrêter. Et puis il y a la contagion qui frappe et on ne peut pas se protéger. Donc, il y a la personnification de la maladie au verset 6. Au verset 10, vous avez une référence au malheur, au fléau. Vous avez deux mots, là, au verset 10. Et puis, vous avez les versets 12 et 13. Il parle d'une pierre, d'un lion, l'aspic, le lionceau, le dragon. Il y a cinq choses, là, des dangers. Et puis, au verset 15, vous avez le mot détresse, la détresse. Donc, oui, il y a plein de choses ici. Plein de dangers, besoin de protection. Donc, c'est une protection compréhensive que Dieu nous donne. On ne peut pas imaginer un danger qui ne trouve pas sa place dans cette liste. Et puis, si vous regardez encore dans vos Bibles, je parle ici maintenant de la lettre B, sur le point 2. Une protection individuelle. Ça, je crois qu'il y a beaucoup d'espoir pour nous. Regardez le verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. On voit ici que Dieu pense à ses enfants individuellement. Et je vais le mettre au singulier. Il pense à toi individuellement. Et ce n'est pas une promesse absolue qu'aucun chrétien ne tombera malade. Ce n'est pas la promesse ici. On peut voir dans d'autres passages où les chrétiens, les croyants sont tombés malades. Mais le psalmiste donne un encouragement à l'individu qui traverse des moments très dangereux et qui a les yeux apparemment fixés sur les circonstances, sur les personnes ou les choses qui l'entourent. Et il lui dit, en somme, il faut savoir, tu es indestructible dans les mains de Dieu. Indestructible, même si 1000 ou 10 000 tombent, tu ne pourras pas être détruit dans les mains de Dieu. La peste est toujours associée à la main de Dieu. C'est Dieu qui frappe de la peste. Et nous voulons admettre aujourd'hui, c'est Dieu qui frappe aussi avec ce virus. C'est Dieu qui le fait. Mais nous voyons ici qu'il ne fait pas de manière impersonnelle. Il y avait 70 000 personnes qui sont mortes quand David a péché. Ils sont morts de la peste. Mais ces 70 000 personnes n'ont pas été choisies au pif, au hasard. C'est Dieu qui individuellement choisit pour chaque croyant. Et on ignorait pendant le Moyen-Âge pourquoi la peste a laissé à côté certaines régions ou villages. Il y a un village de Saint-Sauve en Corrèze aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Sauve. Et il a eu son nom parce que ce village a été sauvé de la peste, tandis que d'autres villages autour ont été ravagés par la peste. Et quelqu'un a dit que la peste était comme des flèches tirées au hasard. Et si vous regardez ce passage, il parle de la flèche. Et on voit qu'il n'y a pas de flèche tirée au hasard, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas d'hasard dans la vie du chrétien. Il contrôle la santé de chacun et de chacune. Mon pasteur, quand j'étais à l'université, a raconté que son grand-père était dans l'armée au moment de ce qu'on appelle la grippe espagnole, donc en 1918. Cette pandémie a fait 50 millions de morts, selon l'Institut Pasteur. Et il y a plus de 400 000 qui sont morts en France, plus de 500 ou 600 000 même qui sont morts aux États-Unis. Et donc, ce grand-père de mon pasteur, il avait la triste besogne de prendre les morts de l'hôpital et de les enterrer. Donc, tous les jours en contact avec les morts et mort de la peste. Et il est mort à 93 ans. Dieu l'a épargné. Et ses petits-fils sont devenus des prédicateurs. Il faut savoir que Dieu a déjà dans sa pensée les générations suivantes. Que rien ne va se passer à part sa bonne volonté. L'homme ne peut pas nous frapper par la peste, c'est Dieu seul. C'est une protection individuelle, Dieu veille sur toi individuellement. Que dit le psaume 139, verset 16? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc il y a déjà longtemps que Dieu a choisi pour nous le nombre de jours que nous allons vivre. Et cette peste ou ce virus ne pourra rien changer pour vous. Ça pourra être l'outil que Dieu utilise dans nos vies. Mais ça ne pourra rien changer de son plan pour nous. Nous pouvons nous reposer en paix chaque soir, sachant que nous sommes dans les bonnes mains du Seigneur. Et puis, à partir du verset 11, c'est la lettre C, là, sous le numéro 2, une protection même miraculeuse. Regardez le verset 11. « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionçon et le dragon. Là, nous voyons même, si Dieu choisit, il peut envoyer des anges et d'une façon miraculeuse nous protéger. Et nous pouvons considérer l'exemple de Jésus pour savoir comment appliquer ses promesses. Jésus a dit à Satan qu'il lui a cité ces versets. Qu'il ne faut pas tenter Dieu. Jésus a refusé de sauter du temple. Et donc, ce n'est pas à nous, des croyants, de dire, voilà, je m'en fiche de ce que des consignes qui me sont données. Moi, je fais confiance à Dieu. Non, nous avons l'exemple de Jésus où il ne faut pas tenter Dieu dans ce domaine. Il ne faut pas l'exiger à faire quelque chose de miraculeux pour nous. Le chrétien doit rejeter deux erreurs. Les deux commencent avec A. Anxiété d'un côté et arrogance de l'autre. Et il faut veiller que notre attitude ne démontre ni l'anxiété, et on est comme les autres, ni l'arrogance de dire que je suis mieux que les autres et je mérite plus que les autres. Donc, mais Dieu peut, s'il veut, nous protéger même de façon miraculeuse. Et avant de lire la dernière partie du psaume, regardons les métaphores pour la sécurité. Ça aussi, vous avez sur votre papier ici, c'est le dernier avant la fin ici, les métaphores pour la sécurité. Qu'est-ce que vous voyez au verset 1 et 2? Vous avez plusieurs mots ici. On a d'abord le mot « abri ». Ça, vous pouvez mettre « abri ». Et puis, il y a le mot « ombre ». C'est l'ombre de Dieu. Et puis, qu'est-ce que vous avez en troisième lieu? Quelqu'un ici l'a trouvé? On a l'ombre, l'abri, l'ombre. Verset 2, il est un refuge aussi. Et quatrièmement, il est une forteresse. Méditez sur ces métaphores pour la sécurité que Dieu nous donne. Puis regardez le verset 4. Qu'est-ce que nous trouvons au verset 4? Nous trouvons des plumes de Dieu, un refuge, des ailes, un bouclier, une cuirasse. Il y a un mélange de métaphores. Hein. On aime bien être protégé par une cuirasse, mais le soir, ça fait froid, ça donne froid quand même, ce métal. Et aussi des ailes pour nous réchauffer. Verset 9, qu'est-ce que vous trouvez au verset 9? Encore des mots déjà vus, un refuge, une retraite. Et verset 12, porté sur les mains des anges. Jésus a refusé de sauter du temple, mais dans ce même récit, à la fin, lorsqu'il a résisté au diable, la Bible dit que Dieu a envoyé ses anges pour avoir un ministère envers lui. Alors, troisième et dernier point, engagement personnel de Dieu. C'est les versets 14 à 16 où Dieu parle ici maintenant. Maintenant, c'est la voix de Dieu et il dit « Je serai un refuge ». Regardez ces versets. Verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Alors, sur la deuxième page ici, vous tournez la page, vous avez celui qui reçoit la protection. Qui est celui qui reçoit la protection? Pour le verset 2, c'est clair, non? Si vous regardez, c'est celui qui se, quoi? Qui se confie en Dieu. C'est ce mot demeurer. Hein, c'est des métaphores pour confiance. Quand il y a un danger, on cherche un abri. Il y a des gens qui vont courir vers des caves ou des montagnes pour être protégés. Et le croyant, il court vers Dieu. Il veut faire de Dieu sa demeure. Si nous avons Dieu pour demeure, nous ne sommes jamais des SDF. Parce que Dieu est toujours notre demeure. Et puis au verset 14, pour revenir dans la dernière partie que nous regardons, actuellement, la première partie du verset 14, on voit un attachement, un amour envers Dieu. Vous voyez ce qu'il dit? Puisqu'il m'aime, il m'aime. Un vrai croyant fait plus que simplement croire en Dieu d'une façon intellectuelle. Il aime Dieu. Il est lié à Dieu par ses liens affectueux. On peut le traduire puisqu'il est attaché à moi. C'est le même mot que Dieu utilise pour l'amour qu'il a vers son peuple. C'est en Deutéronome 7, verset 7, 10, verset 15, par exemple, où Dieu dit « Je vous ai aimé ». Et là, c'est le croyant qui aime Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Mais si Dieu vous a donné un amour pour lui, sachez que lui aussi vous a aimé en premier. Et vous êtes donc protégés. Et puis, deuxième partie donc, du verset 14, c'est une connaissance relationnel. Moi, je mettrai ça dans le trou. Il dit, puisqu'il connaît mon nom. Et c'est une image, c'est plus que, j'ai entendu parler du nom de Dieu. Connaître son nom, ça parle d'une relation personnelle. Il me connaît. Il connaît mon nom. Une relation construite sur la révélation divine de Dieu. Vous connaissez Dieu. Et puis, selon le verset 5, c'est celui qui fait donc une prière humble, une pétition humble. Il dit, il m'invoquera. Donc, c'est celui qui va invoquer Dieu et je lui répondrai. Donc, c'est celui qui se confie en Dieu. C'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui connaît Dieu d'une façon personnelle. Et c'est celui, quatrièmement, qui prie à Dieu et qui demande à Dieu. Jacques dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, il faut invoquer le Seigneur. Et puis, cette promesse, je lui ferai voir mon salut. Vous aurez le salut de Dieu. Donc, quel est le thème de ce psaume? Tout en haut de la page, vous avez le place pour mettre un thème. Et vous n'êtes pas obligé de mettre ce que j'ai mis, mais je vous donne ce que j'ai mis. C'est que Dieu est notre protecteur éternel. Dieu est notre protecteur éternel. Alors, je vais terminer juste en vous donnant, je crois que j'ai 4 petits conseils pour ce moment. Dieu a chamboulé beaucoup de choses. J'imagine que votre emploi du temps est changé. Si vous avez des enfants, ils vont être à la maison. Sinon, vous allez... Voilà, nos habitudes seront différentes là pendant quelques semaines. Il ne faut pas gaspiller ce temps. Il faut prendre ce temps comme un don du Seigneur pour notre bien. Donc, je vous encourage vivement, ici au début, de prendre aujourd'hui, là c'est le jour du Seigneur, à réfléchir en famille, si vous êtes en famille, sinon individuellement, comment utiliser ces moments que Dieu vous donne. Il n'y aura peut-être pas d'autres moments comme ça dans toute votre vie. Donc, quelques conseils. D'abord, profitez au maximum de ce changement divin dans votre emploi du temps en vous fixant des objectifs pour vous et peut-être pour votre famille. Pensez au moins à quelques objectifs, un challenge que vous pouvez faire. Cherchez à trouver du bon dans ce temps. Peut-être vous pouvez vous mettre à mémoriser le psaume 91. Peut-être vous pouvez dire, moi, même un enfant de 10 ans, il peut dire, ok, moi je vais lire un certain livre de la Bible et de Samuel. Ou vous avez peut-être un livre chrétien qui est sur votre étagère depuis peut-être des années. Peut-être c'est le moment de le faire. Mais ne gaspillez pas ce temps. Écrivez même peut-être, notez ces choses, des objectifs que j'ai pour moi et pour ma famille. Nous avons demandé même à nos enfants de penser à des objectifs individuels. Et puis, on peut s'aider les uns les autres, nous encourager à les accomplir. Donc, premier conseil, profitez au maximum de ce changement en fixant des objectifs spirituels pour vous-même. Deuxième conseil, faites de l'angoisse un appel à la prière. La Bible dit « rejetez l'angoisse et choisissez toujours la prière ». Donc, dès qu'on sent une angoisse, faites de cette angoisse un appel pour prier. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et puis, troisième conseil, j'en ai 4. Troisième, exercez-vous à voir la main de Dieu dans les moindres détails. Exercez-vous à voir la main de Dieu dans les moindres détails. Travaillez à ces choses. À Sarcelles, nos étudiants, vous savez, qui êtes là, la vie de Joseph. Et la leçon pour aujourd'hui parlait du fait que Joseph C'est exercer à voir la main de Dieu dans les moindres détails, même les plus difficiles. Il se trouve envoyé en prison d'une façon injuste, et on voit que l'Éternel était avec lui. Et il voit la main de Dieu même dans ces choses, jusqu'au point où il pourra dire des années plus tard à ses frères, « Ben vous, vous avez fait du mal, vous avez comploté, vous avez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Il voit la main de Dieu. Où est la main de Dieu dans ce virus? Où est la main de Dieu dans le fait que l'école est annulée, que les commerces sont changés, qu'on s'enferme, etc.? Qu'il y a la panique autour de nous. Cherchez tous les jours à voir la main de Dieu et nous serons plus heureux et plus bénis à cause de cela. Et dernier conseil, préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Ne le cherchez pas, mais je voulais vous lire deux versets en Amos chapitre 4. Au verset 10, il dit « J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte, j'ai tué vos jeunes gens par l'épée, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Il dit « J'ai envoyé la peste, et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. » Et puis juste après, il dit, verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Dieu envoie cette peste parce qu'il veut nos cœurs. Quelle tristesse si malgré ce virus, malgré l'incertitude dans laquelle ce monde se trouve, nous ne sommes pas plus préparés à la fin à rencontrer Dieu qu'avant. Et même en tant que chrétiens, nous devons veiller sur nous-mêmes pour que le jour où il apparaîtra, nous ne soyons pas dans la honte, mais dans la joie devant sa face. Et donc, je termine avec ces paroles, vous connaissez, j'imagine bien, mais de Lamentations, chapitre 3, parce que ça termine d'une façon très personnelle, ça l'applique aussi personnellement. Lamentations 3, 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Et puis juste après, il dit, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » On peut dire ces choses, « Ta fidélité est grande, quand l'Éternel est mon partage. » Pouvez-vous dire, « L'Éternel est à moi. » C'est ça la question qu'il faut se poser en se préparant à rencontrer l'Éternel. « L'Éternel a de la bonté. » Pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Cherchez, mes amis, cherchez le Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.